et français.press.
En direct d'Hong Kong.
Bonjour Karine Silla, bonjour Vincent Pérez. J'ai eu l'immense joie de découvrir votre film Une affaire d'honneur en avant-première. Alors tout d'abord, quel est l'élément déclencheur de ce film? Comment se lance-t-on dans un projet d'une telle envergure?
Ah bah je pense que c'est un peu, un film qui représente la somme de plusieurs expériences, peut-être même d'une vie de cinéma, parce que dans ma carrière, effectivement, j'ai fait beaucoup de films d'époque, et j'ai toujours eu le sentiment que j'avais un film en moi. Donc c'est une boîte de Pandore que j'avais refermée il y a bien longtemps, suite au Bossu, parce que j'avais commencé des recherches et je n'avais pas trouvé. Et puis, suite au tournage J'accuse de Polanski, et suite à une discussion que j'ai eue alors que j'assistais au procès de Dreyfus avec mon partenaire et ami dans la vie et dans le film, Jean Dujardin, et qui m'a, à un moment donné, dit « Vincent, pourquoi tu ferais pas un film ?» Il a réouvert là, cette boîte de Pandore que j'avais fermée.
Quand vous avez commencé à écrire le scénario, aviez-vous déjà en tête l'atmosphère du film, la couleur de l'image, les costumes?
J'aime me plonger, me faire une sorte d'immersion dans un monde que je ne connais pas, que je découvre. Donc du coup, je fais beaucoup de recherches. Et donc du coup, c'est en piochant dans toute cette période-là, très vite, ça s'est recentré sur cette année-là de 1887. Je me suis nourri donc autant d'écrits que d'images aussi. Et donc petit à petit, je fais un dossier parallèle à l'écriture du scénario, qui est un dossier d'images, de références. À la fin, je m'étais retrouvé avec un document qui faisait à peu près 250 pages et qui contenait 1000 images. D'un côté, j'avais ça, et de l'autre côté, j'avais aussi beaucoup de dessins que je faisais pour garder en mémoire le film rêve, en fait, celui qu'on a. Quand on écrit, on rêve, on a des images, on a un film, et donc je voulais pas le perdre, en fait, ce rêve-là.
J'ai trouvé les duels, mais absolument magnifiques. En fait. Il y a une vraie chorégraphie entre les acteurs et la caméra. Comment travaille-t-on en amont pour atteindre cette fluidité? La caméra est à l'intérieur des duels par moment.
Ça a été un travail très sérieux, très précis sur les chorégraphies. D'abord, l'élaboration des chorégraphies avec le maître d'art, Michel Carliez. Et puis ensuite, comment effectivement introduire cet élément qui est une caméra à l'intérieur des duels. Donc du coup, en fait, ce qu'on faisait, c'est que pendant l'entraînement, très vite, à partir du moment où j'avais validé le duel, c'était écrit dans le scénario, hein, donc la chorégraphie était écrite. Dès qu'on a pu, on a commencé à mettre une caméra à l'intérieur de l'entraînement avant même d'ailleurs que les acteurs commencent à l'étudier et à apprendre les chorégraphies. Donc du coup, il y a eu un travail de pré-tournage où on a filmé avec donc des petites caméras le combat avec les cascadeurs, parfois certains acteurs.
Là, vous venez d'évoquer les cascadeurs. Les comédiens ont-ils eux-mêmes réalisé certaines cascades?
Ah, ils ont tout fait, les comédiens, en fait. Ils se sont entraînés pendant 3 ou 4 mois pour arriver à très vite à 4 séances par semaine, d'un côté avec un coach physique et de l'autre côté avec le maître d'armes. L'idée, c'était que je puisse les filmer plutôt large. J'avais envie de vraiment filmer la chorégraphie et de voir les corps, les visages et les corps.
Qui a été votre œil extérieur pendant que vous jouiez vos scènes?
C'était ma co-scénariste, Karine Silla. Elle était ici présente, à côté de moi. Elle était là même quand je ne jouais pas. Des premiers rêves de l'écriture du scénario jusqu'à l'aboutissement du film.
Vous avez, Karine Silla et Vincent Pérez, l'habitude de travailler ensemble. Comment vous procédez? Est-ce que c'est un dialogue permanent?
On travaille toujours sur plusieurs projets en même temps. Karine travaille sur ses écritures, sur ses romans, sur d'autres scénarios, avec d'autres réalisateurs. C'est des mises en distance du scénario. Quand moi je lui donne le scénario, elle approfondit le psyché des personnages. C'est vraiment son rôle, en fait. Elle apporte de la vie, la réalité dans la construction psychologique des personnages.
Voilà, puis moi quand je travaille donc comme co-scénariste avec un metteur en scène dont c'est le film et dont c'est le projet, ce que j'essaye de faire, c'est d'abord on parle énormément en amont. J'essaye de comprendre et de m'imprégner de l'univers, de ce qu'il a envie de raconter, en fait. Pour moi, ça, c'est vraiment la toute première étape. Et ensuite, moi, dans mon intervention sur les personnages, il y a des livres dont Vincent a fait les recherches que je vais lire. J'ai une passion, c'est l'humain, qui se reflète dans nos sociétés. Et donc, du coup, pour chaque personnage, j'ai toujours plus ou moins, moi, des références de littérature. C'est-à-dire que j'avais, par exemple, pour le personnage de Clément Lacaze, j'ai lu beaucoup de philosophie autour de l'individualisme. Qu'est-ce que l'individualisme ? Quel grand personnage de la littérature était un individualiste ? J'avais, pour le personnage de Tavernier, qu'est-ce que l'ami ? Qu'est-ce que l'amitié ? Je pensais beaucoup à Fred Ullmann, l'ami retrouvé. J'avais dans le personnage d'Astier des discours de Badinter, de Simone Veil, que pense Virginie Despentes, les féministes d'aujourd'hui, les féministes d'hier. J'étais imprégnée de ces littératures-là. Dans le personnage de Nemassa, j'avais lu des articles qu'il avait écrits contre Astier et je me disais, mais pourquoi tel acharnement contre cette femme ? Quel est le problème de cet homme profond par rapport à cette femme ? Pourquoi il la traite sans arrêt de lesbianisme, de trucs ? Et donc je me suis dit, il doit avoir un problème au niveau de sa sexualité. Qu'est-ce qu'un homme qui est dans une frustration de sexualité ? Donc avant même que le langage surgisse, pour moi, il y a une véritable recherche, le situer déjà dans un espace sociologique, temporel. Ensuite vient naturellement une espèce de musique qui se met en place, très différente, dans des rouages de langage. Puis j'aime beaucoup le slam, le rap, j'aime beaucoup les battles, les joutes littéraires qu'il y avait avant. J'aime les débats littéraires. Ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est l'interaction des dialogues. Comment les personnes se parlent, comment ils se chevauchent.
Vous avez évoqué Astier, parlé de Simone Veil, qui a pu vous inspirer. Justement, pourquoi avoir choisi ? On a toujours ce cliché qu'un film comme ça de duel serait un film d'hommes. Pourquoi avoir réhabilité Marie-Rose Astier, cette femme pleine de bravoure, oubliée par l'histoire, et la placer au cœur de l'intrigue ?
En fait, ce qui était merveilleux, c'est que Vincent, au début, avait vraiment dans sa tête de faire un film d'homme, de parler de la virilité, de parler de ce qui les abîme, leur histoire, la guerre. C'est les hommes qui font la guerre, c'est les femmes qui la subissent. Mais il y avait vraiment ce besoin, Vincent m'en parlait beaucoup, de mettre le duel au centre, de questionner la virilité, la violence. Et puis, il avait trouvé ce personnage dans ses recherches qui était cette Marie-Rose Astier de Balzer, qui avait une place au départ, qui traversait. En fait, a commencé à s'imposer dans ce monde d'hommes, a commencé à traverser. Et puis, elle a pris une place. D'abord, c'est un personnage absolument étonnant. Donc, Vincent avait retrouvé les chansons qu'elle écrivait, sa poésie. Et ce qui est assez étonnant par rapport à la force d'un individu, ce qui nous fait croire que les gens ne meurent jamais vraiment, c'est que, en fait, quand les gens marquent l'histoire avec une foi profonde dans ce qui, en fait, ils laissent des traces. Et cette trace est venue, en fait, traverser et s'imposer dans cette histoire. Et c'est pas seulement ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle revendique, c'est tout son être qui se met à égalité des hommes et ce qui fait, qui nous emmène dans une réflexion d'aujourd'hui. Tous ces gens qui ont le fondement du féminisme, cette voix qui résonne encore aujourd'hui, et c'est voilà, je trouve ça extraordinaire.
Aujourd'hui, le duel pour réparer son honneur n'existe plus. Par quoi a-t-il été remplacé, à votre avis?
Bah à l'époque, je disais qu'elle était remplacée par les avocats. Effectivement, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'honneur, en fait, aujourd'hui. Quand on pense à l'honneur, c'est vrai que je pense qu'en France, ce qui n'est pas forcément le cas ici, à Hong Kong, j'ai l'impression, d'après les discussions qu'ont suivi, vraiment un vrai sens de l'honneur. Ici, il y a ce royaume dont parle dans le tribunal d'honneur à la fin du film. Ce juge d'honneur qui parle de ce qu'on a tous en nous, un royaume, notre honneur qu'il est bon de préserver. Ça existe peut-être un peu plus ici à Hong Kong et peut-être en Asie, je ne sais pas. Et que ça existe beaucoup beaucoup aussi, je trouve, dans les banlieues parisiennes, par exemple, hein, la question, on parle souvent de l'honneur. Je dirais que dans le Paris intramuros, il a pris une autre forme, et j'imagine dans les sociétés occidentales, etc. Dans l'honneur, il y a l'idée de la dignité et puis de la réputation. En fait, ça se mélange un petit peu, mais je dirais un mélange entre dignité et réputation. Donc du coup, effectivement, il y a une sorte de résonance avec ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux.
Cette réputation qui est difficile à laver maintenant, d'ailleurs, qui est difficile à réparer.
Une fois qu'elle a été salie, au jour d'aujourd'hui, avec toutes les traces qui restent, tout se mélange, en fait, vu que les traces restent. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on fait pour nettoyer une attaque qui salit votre réputation, votre honneur. Alors qu'à l'époque, une fois le duel passé, le problème était réglé. On revenait plus dessus.
Moi, je voulais revenir sur le parallélisme avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un mot qui est très fort, c'est « je demande réparation ». Il y a eu insulte, il y a eu blessure, il y a eu humiliation, et je demande une réparation. Une réparation, voilà, très concrète. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de totalement vertigineux, et c'est quelque chose qui m'offusque à chaque fois, c'est que quand des fois je vois les gens dont la réputation est traînée dans la boue, je me dis, ça ne peut mener qu'à la folie. Comment on fait pour se relever de ça? Donc il y a un danger de folie, parce que c'est vertigineux de ne pas pouvoir se réparer. Comment aujourd'hui on peut obtenir réparation?
Plus léger ou pas, mais quel est votre plus beau souvenir de ce tournage grandiose?
Moi, le plus beau souvenir, je pense, c'est bizarrement un des jours de tournage les plus difficiles. C'était vraiment le dernier duel. En fait, il y avait toutes les conditions et il y avait ce qui aurait pu ressembler au cauchemar. Parce qu'il y a à la fois, on filme un cauchemar, parce qu'on filme un duel totalement barbare. Les conditions sont difficiles. Le temps est extrêmement limité. Il y a des hommes qui sont fatigués. Et à la fois, je regarde le metteur en scène, je regarde Vincent, et je le vois dans un tel état. Je me disais à ce moment-là, ah, il est en train de réussir son film, il est en train de faire son film, il est en train d'accomplir son rêve. Il y avait quelque chose du rêve qui traversait le cauchemar, qui était quelque chose d'extrêmement intense. Il y avait une complicité avec sa chef opératrice, il y a une solidarité entre lui et Rushdie. Il y avait quelque chose, il y avait un moment de telle solidarité où l'équipe était là. Ça, c'est vraiment un moment qui m'a énormément touchée, dont je me rappellerai.
Pour moi, c'est le même moment, probablement le moment le plus difficile aussi du tournage, hein, parce que en fait, techniquement, c'était extrêmement compliqué d'être sur un cheval et de en même temps diriger un film. Il fallait absolument réussir cette fin, quoi. Ce qui n'était pas forcément évident sur le papier. Enfin, il fallait vraiment que ce soit une sorte de climax, d'apothéose du combat. Enfin, et puis surtout retrouver, je pense, à ce moment-là, une des thématiques centrales du film, qui était pas forcément une thématique évidente et visible au départ, mais qui petit à petit se révèle, qui est le rapport à la guerre, en fait, de tous ces personnages-là. Et donc, du coup, il fallait faire exister cette guerre, en fait, dans ce duel. Du coup, j'ai l'impression d'avoir traversé un peu la guerre à ce moment-là. En fait, c'est un tournage qui s'est fait en très peu de temps, en 39 jours. Donc, du coup, il n'y avait pas place au doute. Là, j'ai été traversé de doute, en fait, pendant le tournage de cette séquence-là. J'avais pensé à une fin, à une toute fin. Je parle des dernières images du film et ça ne marchait pas. Il fallait que je trouve cette fin, en sachant que j'avais pas de temps. Je ne trouvais pas. Et puis, je suis allé voir Rushdie. Et il m'a dit, écoute, Vincent, écoute, en général, quand je suis dans cette situation-là, j'essaie de penser au plus simple.
Vous parliez tout à l'heure de vos doutes. C'est étonnant parce que malgré votre grande expérience, vos qualités respectives reconnues, finalement, vous avez encore des doutes, vous avez encore des peurs quand vous réalisez un film.
C'est un moteur, hein, la peur, le doute. S'il n'y avait pas s'il n'y avait pas ça, on ferait des choses totalement inintéressantes, hein, je pense. C'est le propre même des gens qui créent, hein, de douter.
Après, Vincent, moi, je pense que dans le rapport qu'on a, puisqu'on est aussi un couple dans la vie, c'est que moi j'essaye, je temporise peut-être aussi la façon dont Vincent voudrait toujours être immersé dans le travail et tout ça, et moi je passe mon temps à introduire de la vie, en train de dire non, il faut vivre, il faut profiter aussi de la vie, parce que je pense que aussi la vie traverse nos œuvres. Vincent, qui est comme tout artiste totalement obsessionnel, par moments rentre un peu, et puis quand je vois qu'il va rentrer dans le truc du hamster, et qu'il va rentrer dans cette espèce de roue à pédaler comme ça, je lui dis ouh, stop, il faut sortir de la cage.
Ça y est, je suis devenu un hamster.
Mais c'est charmant quand même.
C'est une belle image.
C'est une très belle image. Pourquoi, Vincent, vous êtes devenu acteur, scénariste, réalisateur? Karine, vous êtes devenue réalisatrice, scénariste, romancière. Pourquoi avez-vous autant besoin de vous exprimer?
La curiosité, c'est cette curiosité d'avoir envie de raconter des choses de l'humanité, de ce qui nous entoure. Je pense qu'on ne choisit pas d'être artiste. On l'est parce qu'on peut pas faire autrement.
C'est lié à quelque chose que moi j'ai toujours eu en fait, enfant, petit déjà. Enfin, je faisais la même chose en fait. Je passais mon temps à m'évader dans mon monde imaginaire, créer une sorte de bulle dans laquelle je pouvais explorer, chercher ou inventer ou me recréer un autre monde peut-être. Et puis petit à petit, à cette idée de une sorte d'appétit d'excellence aussi dans ce registre-là, d'aller jusqu'au bout de, en fait finalement, de ce qu'on est, de notre véritable identité en dehors de tous les codes sociaux et qu'on dessine soi-même et dont on est le seul moteur. Voilà, et le cinéma, c'est assez extraordinaire parce que finalement, le cinéma, c'est ce qu'il y a de plus proche de nos rêves. Et le rêve, c'est l'inconscient, c'est le subconscient, c'est...
Oui, je pense aussi pour moi qu'il y a aussi une manière d'atténuer la souffrance intime et la souffrance de l'autre. Atténuer la souffrance en créant des mondes imaginaires, en essayant d'apporter de la compréhension dans le monde. Un film réussi, je pense une œuvre réussie, c'est quand on rentre en empathie avec l'œuvre, quand on rentre en empathie avec les personnages. Donc il y a vraiment de ça, du fait d'atténuer la souffrance.
Et j'ai l'impression qu'à l'intérieur de tout ça, en fait, on essaie de trouver un sens à la vie aussi.
Qu'avez-vous ressenti avant et après cette projection en avant-première?
J'ai toujours envie qu'on soit sensible à l'œuvre de Vincent. J'ai toujours cette petite angoisse au fond d'avoir envie qu'il soit entendu. Il y a un tel travail, il y a une telle passion derrière ce film. Rien n'est léger. Donc du coup, il y a toujours un peu cette appréhension de est-ce qu'il aura été entendu? Et donc après, quand on sent dans une salle, on sent les vibrations d'une œuvre qui est passée, qui a touché. Et donc du coup, je pense qu'une œuvre réussie est une œuvre dans laquelle il y a cette universalité d'une réception unique. Et là, je me dis, j'aime ce moment où on puisse être en communion avec les autres, parce que pour moi, ça annule les frontières. C'est à ce moment-là où je crois en l'humanité.
J'étais très touché par ce sentiment, finalement, que ce film-là traversait les frontières et que ça pouvait toucher un public hongkongais. Et c'est vrai qu'on a des réactions toujours très fortes sur le film, mais j'ai senti que ça touchait quelque chose de très profond, en fait, sur la population hongkongaise dans la salle. Je voyais dans les regards. Je parlais de ces films d'arts martiaux, et j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une sorte de cette idée d'honneur qu'on retrouve souvent dans les films d'arts martiaux, d'ailleurs, aussi. J'étais très, très heureux de ça.
Ce voyage à Hong Kong vous a-t-il nourri émotionnellement, artistiquement ou même spirituellement?
Déjà, je trouve Hong Kong une ville étonnante, je la trouve très inspirante pour des créateurs. Il y a quelque chose, un mélange comme ça dans cette ville, à la fois très urbaine et à la fois on sent une civilisation très ancienne. Et donc ce mélange-là, et voilà, j'ai une amie très chère qui habite Hong Kong, donc... j'ai de la chance d'avoir aussi pu me promener dans cette ville avec une amie. Donc c'est toujours merveilleux de pouvoir voir une ville par rapport à un prisme qui de l'amitié. J'ai beaucoup 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 aimé ce voyage. Et on a merveilleusement mangé. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial dans ma vie, de pouvoir vraiment aussi nourrir notre palais. Parce que le palais est directement lié à l'âme pour moi.
Bah oui, moi j'étais très heureux de revenir à Hong Kong aussi. Je suis venu il y a très longtemps, plusieurs fois. Et c'est vrai que Hong Kong, c'est une ville qui fait rêver, pleine de fantasmes, d'histoires. C'est une ville qui m'ouvre tout de suite à tout un monde, toute une histoire.
Mais merci énormément. Je vous souhaite un succès phénoménal avec ce film parce que vous le méritez vraiment. Vous parliez de votre rêve initial quand vous avez commencé à écrire le scénario, à récolter comme ça toutes les pages, les photos. Je ne sais pas si vous avez l'impression d'avoir atteint ce rêve, mais en tout cas, nous, en tant que spectateurs, c'est absolument un rêve. On est plongé, on est dans cette époque, on est bouleversé, on est dans chaque personnage et on en ressort modifié. Donc vraiment bravo.
C'était lesfrançais.press.